Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Julien Cellier.
Un air d'Amérique.
Allez, 5h46, on file donc aux États-Unis. On va rejoindre notre correspondant Lionel Gendron du côté de New York. Bonjour Lionel.
Bonjour Julien, bonjour Céline, bonjour à tous.
Et on va bien entendu revenir sur l'effondrement de cet immeuble en Floride qui fait la une de l'actualité depuis 5 jours maintenant chez vous, parce que le dernier bilan très provisoire s'est alourdi à 9 morts et des polémiques apparaissent parce que les sauveteurs sont toujours sur le site, mais il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver des survivants.
Les 300 secouristes travaillent toujours sur les décombres, mais ils ne sont pas parvenus à se frayer un passage. Ils avancent avec précaution parce que toute la difficulté, c'est cette équation, laisser une chance de sauver quelqu'un et pas d'aggraver la situation en créant un autre effondrement. Mais forcément, quand on a un parent ou un proche sous les décombres, ces explications rationnelles ne suffisent pas. En plus, ils ont été freinés par des fortes pluies, puis par un incendie qui s'est déclenché sous les gravats dont on ignore l'origine. Résultat, c'est un travail long, pénible, décourageant, puisque à part dans les premières heures, les sauveteurs n'ont pu sauver personne. Le dernier bilan est donc de 9 morts, 150 disparus que les autorités ne veulent pas encore déclarer mortes, même si les secouristes avouent ne plus entendre le moindre bruit, le moindre indice de vie. Le maire de la ville a déclaré hier, on n'a pas besoin de ressources, on a tous les moyens nécessaires, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est de la chance.
Et on commence à connaître les noms, les histoires des premières victimes identifiées.
Oui, comme cette mère de famille, Stacy Fong, qui est décédée à son arrivée à l'hôpital. Son histoire touche les Américains car c'est la mère de l'adolescent de 15 ans qui a été sortie des décombres peu de temps après l'effondrement. Joshua, un jeune joueur de baseball, on a vu les images de son sauvetage, ce qui donnait d'ailleurs des espoirs à ce moment-là aux secouristes et à ceux qui suivaient cette catastrophe par médias interposés. Malheureusement, il est à ce jour la seule personne qui était coincée sous les gravats et qui a été sauvée. Autre victime, ce père divorcé qui habitait lui au 8e étage. Il laisse derrière lui un fils de 10 ans et une fille de 13 ans. Et ce destin incroyable, puisque leur mère était venue récupérer les enfants mercredi soir, quelques heures avant la catastrophe. Autre victime identifiée, un couple originaire de Cuba, comme beaucoup de Cubains. Et ils avaient refait leur vie en Floride. Ils étaient mariés depuis 59 ans.
Alors, les familles des victimes ont évidemment besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et ce week-end a été marqué par un rapport de 2018 sur le bâtiment. Rapport qui a jeté un trouble.
Oui, un ingénieur avait indiqué qu'il fallait procéder à des réparations et il faisait état, je cite, de dommages structurels majeurs ainsi que de fissures dans le sous-sol du bâtiment. Alors, la plupart des dommages auraient été causés par des années d'exposition à l'air salin, un air corrosif, car l'immeuble était face à la mer. Un autre rapport datant de 2020 cette fois montrait que les immeubles avaient subi un affaissement de 2 mm par an entre 1993 et 1999. Une habitante qui a pu s'échapper à la dernière minute dit avoir entendu des craquements et des bruits bizarres bien avant la catastrophe. Même témoignage de la part d'un fils sans nouvelles de sa mère. Elle lui avait raconté peu de temps au téléphone qu'elle avait été réveillée la nuit par des bruits étrange dans l'appartement. La ville de Miami a d'ores et déjà ordonné l'inspection de tous les bâtiments de plus de 6 étages et de plus de 40 ans.
Merci beaucoup Lionel, on suivra bien entendu à l'avancée des secours dans les prochaines heures avec vous sur RTL. Merci et à demain pour un nouvel air d'Amérique.
À demain.
Une info vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus?
Retrouvez les dossiers de la rédaction sur rtl.fr.
Allez, 5h49 minutes, on va maintenant aborder une actualité bien plus réjouissante. Ce France-Suisse qui est prévu ce soir, 8e de finale de l'Euro, ce sera évidemment à 21h à Bucarest. Allez, dans moins d'une demi-heure, on ira rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux, justement en Roumanie, qui nous dira que les Roumains sont très pro-français, qu'on jouera à domicile ce soir. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos Bleus. Des Bleus qui vont être suivis un petit peu partout dans le monde, parce que les expatriés sont chauds bouillants ce matin. On en a deux aujourd'hui au 32-10. On va partir au Pakistan et à Abu Dhabi.
Oui, on accueille Olivier qui est au Pakistan, à Karachi. Il est 8h49 là-bas. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Olivier. Et on accueille Stéphane du côté d'Abu Dhabi. Bonjour.
Exactement.
Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Il est quelle heure chez vous Stéphane à Abu Dhabi?
Il est 7h49.
Très bien. Alors quelle heure sera-t-il exactement chez vous ce soir respectivement Olivier, il sera tard.
Il va être minuit.
Minuit à Karachi. Et donc, vous allez, regarder le match quand même.
Absolument. Oui. Tout derrière.
Alors, racontez-nous un petit peu. Est-ce que vous avez organisé une petite retransmission entre Français?
On va essayer d'être un ou deux couples parce que bon, il est minuit, ça fait un peu tard quand même. Et puis, on n'est pas dans un pays qui soit fan de football. Ici, c'est le cricket d'abord.
Ouais.
Donc, oui, c'est un peu confidentiel. Mais enfin, nous, on va être derrière les Bleus. Ça, c'est certain.
C'est pas un peu déconcertant d'ailleurs de vivre un euro une...